Depuis dimanche et jusqu'à samedi prochain, Benoît XVI et une centaine de personnes issues de la curie romaine, les chefs des dicastères, des membres de la secrétaire d'État et d'autres invités sont rassemblés dans la chapelle Redemptoris Mater pour les exercices spirituels de carême. Choisi cette année par le pape comme prédicateur, le cardinal Bifi prêche sur les choses d'en haut. L'archevêque émérite de Bologne, déjà appelé en 1989 par Jean-Paul II à animer les méditations, s'appuie cette année sur un passage de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, ainsi que sur des témoignages. Pour la petite histoire, les exercices spirituels au Vatican ont été institués par Pie XI en 1929 par l'encyclique Mens Nostra. Pie XI, qui dès 1922 avait déclaré Saint Ignace patron des exercices spirituels. Jusqu'au pontificat de Paul VI, cette retraite se déroulait non pas pendant la première semaine de carême, mais durant l'avant. En quoi consistent ces exercices spirituels? C'est ce que nous explique le cardinal Zenon Grocholewski, préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique.
Les exercices spirituels constituent un moment très important dans la vie de chaque prêtre, chaque évêque, dans la vie du pape. C'est un moment de réflexion, un moment pour un examen de conscience plus profond, pour redresser le cours de sa vie, l'ancrer encore plus profondément auprès du Seigneur, dans la prière. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc de temps en temps, nous devons nous arrêter dans notre travail et nous devons réfléchir sur ce qui ne va pas, sur ce qui doit être corrigé dans sa vie. Comment mieux réaliser la volonté de Dieu? Je pense que c'est un moment très important durant lequel l'âme se recharge. Chacun prend conscience en quelque sorte de ses responsabilités dans son travail. Voilà en quoi consistent les exercices spirituels.
Toute la journée se déroule dans la chapelle Redemptoris Mater ou alors est-ce qu'il y a d'autres lieux?
Non, tout se passe dans la chapelle Redemptoris Mater où se tiennent la prière, les conférences. Bien sûr, il y a aussi des pauses, alors tout le monde fait deux pas dans les salons, les couloirs du deuxième étage du palais apostolique. Mais là aussi, tout se passe dans le silence. Ce n'est pas le lieu pour les grandes conversations, vous savez. Chacun essaye de méditer sur ce qu'il a entendu, de se dédier à la prière personnelle. Il ne s'agit pas de se distraire. C'est juste un moment de réflexion plus personnel et de mouvement aussi.
Sous les pontificats de Pie XI et de Pie XII, les prédicateurs ont souvent été choisis parmi les jésuites. Cette tradition s'estompe à partir de Jean XXIII. Les prédicateurs sont souvent des théologiens de renom, comme le cardinal Cottier ou Mgr Forte, voire des personnalités qui seront appelées à de très hautes responsabilités, tels le cardinal Wojtyla ou le cardinal Ratzinger. Souvent, les méditations prêchées au Vatican sont ensuite publiées. En octobre 1998, Mgr Léonard, l'évêque de Namur, recevait un coup de fil de la nonciature apostolique. Le pape l'avait choisi comme prédicateur pour les exercices spirituels du carême de 1999. Mgr Léonard revient sur le déroulement de cette retraite.
On nous priait de prêcher 4 fois une demi-heure, donc brièvement, mais 4 fois. 4 fois une demi-heure, 2 fois pendant la matinée, 2 fois pendant l'après-midi. Alors les autres moments de... où nous étions ensemble avec le pape et les participants à la retraite, c'était la prière des lourdes le matin, la prière des vêpres le soir, la prière du milieu du jour, et également la récitation du chapelet et l'adoration du Saint-Sacrement. Nous passions grosso modo 5 heures ensemble chaque jour, en prière ou bien dans les enseignements.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir de particulier à être responsable d'une retraite de ce type-là devant des personnes qui sont très préparées?
D'abord, je dois vous dire que je n'ai pas eu beaucoup de temps de me poser trop de questions. Et puis, surtout, j'ai été vite touché par l'ambiance fraternelle de cette retraite. Au début, je me demandais, tiens, je me posais la question que vous me posiez, est-ce que ça ne va pas être un auditoire particulièrement sélect, particulièrement critique, particulièrement averti. Et en fait, j'ai vu que j'avais affaire à des hommes, et quelques femmes aussi, qui suivaient la retraite, à des hommes qui étaient simplement là pour vivre un temps spirituel profond, et qui étaient très, très fraternels et très, très encourageants. Bon, j'ai prêché pour eux comme j'aurais prêché pour un autre public, avec le même souci pédagogique et en même temps le même souci de vivre une retraite profonde et qui appelle à la conversion du cœur. Et ça s'est passé très agréablement.
Vous avez parlé des nombreux moments de prière qui rythment ces journées. Est-ce qu'il y a eu aussi des moments d'échange par rapport à vos prêches? Est-ce que vous avez pu en discuter avec certains participants?
Non, c'était une retraite en silence, c'était une retraite vraiment très recueillie. Donc en principe, on ne parlait pas pendant les pauses, c'était vraiment très bref. Un cardinal, un évêque ou d'autres qui me disaient merci ou un petit mot d'encouragement ou bien qui me félicitaient pour mon italien ou des choses gentilles comme ça, mais très, très brèves. Et le pape lui-même, lui par contre, à la fin de la retraite, il était avec nous, mais il était dans une sorte d'antichambre sur le côté de la salle Clémentine où se tenaient cette année-là les exercices. Il nous a rejoints pour faire un petit discours de merci, d'action de grâce. Et puis alors il m'a reçu personnellement pendant une demi-heure environ pour me dire ses impressions de la retraite et ce qu'il avait spécialement touché ou marqué pendant ces quelques jours. C'est un entretien très, très paternel, très, très beau, très affectueux aussi.
Quelle est selon vous l'importance d'une telle retraite pour la curie ?
Je pense que c'est une retraite d'un type particulier. Par exemple, on n'avait pas la messe en commun, parce que beaucoup de cardinaux, d'évêques, de la curie ont des communautés où ils assurent la messe quotidienne. Puis d'autre part, il y a des secteurs de la curie romaine qui ne peuvent pas, à cette période de l'année, arrêter toute activité, et où donc certains viennent uniquement une demi-journée et pas l'autre. Par exemple, je me souviens que le cardinal Ratzinger venait tous les matins, mais pas l'après-midi, ne pouvant pas arrêter absolument tout travail à cette période. Donc ça me paraît un moment de retraite, de recueillement, mais qui a aussi une portée symbolique, c'est de dire la curie romaine prend avec le pape une semaine de retraite totale ou partielle, suivant les cas, mais qui manifeste symboliquement, publiquement, que surtout, je dirais, quand on a de hautes responsabilités dans l'Église, on a besoin de donner du temps pour le Seigneur, rien que pour lui, et que le temps perdu pour Dieu est toujours du temps gagné pour le travail et pour le service de l'Église. Ça me paraissait un acte de foi publique.
Et le mot de la fin est pour le cardinal Zenon Grocholewski. Il revient sur des méditations qui l'avaient particulièrement ému.
Au cours des dernières années, les méditations qui m'ont beaucoup touché sont celles du cardinal vietnamien Van Thuan. Il a passé tant d'années en prison. Et les exercices spirituels qu'il a menés étaient un peu un témoignage de l'action de Dieu dans sa vie. Par exemple, quand le cardinal Van Thuan racontait comment il célébrait l'Eucharistie en prison, alors que c'était interdit, il essayait d'avoir un peu de pain, un peu de vin pour pouvoir célébrer l'Eucharistie. Le cardinal nous racontait aussi comment les conversions d'hommes qui étaient enfermés dans des camps de concentration. Cela vraiment a été un témoignage très important. C'était comme toucher l'action de Dieu dans la vie des hommes. Ces exercices m'ont vraiment beaucoup touché.
Merci à Mgr Léonard et au cardinal Zenon Grocholewski pour leur témoignage.